à les paroles de la vie. À qui iront-nous? Ta parole restaure, ta parole relève, ta parole rétablit, ta parole ressuscite. À qui irons-nous si ce n'est à toi? Si ce n'est à toi, voilà ce matin ton peuple est là devant toi. Nous voulons répondre comme Samuel qui, après avoir été appelé, dit: Seigneur, parle car ton serviteur t'écoute. Nous aimerions aussi nous joindre à cet David qui dit: j'écouterai Dieu car il parle de paix à son peuple. À qui irons-nous si ce n'est à toi? Oui, voilà pourquoi nous sommes là. Nous te confions encore ce moment et te demandons de nous parler, de nous faire du bien au travers de ta parole. Tu envoyas ta parole, dit la Bible, et ta parole est guérie. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons nous ainsi prié. Et nous disons amen en acclamant le roi de gloire. Nous bénissons Dieu. Est-ce que tu peux bénir ton voisin de gauche, de droite, lui souhaiter la bienvenue? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis encore très heureux ce matin de voir les couples qu'on avait bénis hier. Est-ce que Papa Patrick et Maman Gertrude peuvent se lever là où ils sont, sous les acclamations de l'Église? Waouh! 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 Merci beaucoup. Nous sommes très contents de nous voir ce matin. Amen. Donc, ils ont régularisé leur relation. La dot a été payée. L'officier de l'état civil a pris également acte. Et l'Église a béni. Et Dieu est glorifié. Et la famille est bénie. Les enfants sont bénis. Les problèmes de la famille qui étaient avant disparaissent au nom de Jésus. Et je vous dis que vous verrez un changement. Un changement même dans la vie des enfants. Après ces temps, il y aura un changement qui va se marquer afin qu'il y ait une différence entre avant et après. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et nous disons amen. On acclame le roi des gloires. Les couples peuvent prendre la place sous les acclamations. Et au deuxième culte également, il y aura un autre mariage que nous allons encore une fois de plus bénir. Amen. Et je tiens aussi à bénir le service social. Vous savez, j'avais rencontré les responsables de ces départements, puisque chaque fois qu'il y a rentrée scolaire, nous faisons une opération pour accompagner les enfants qui ont du mal à retourner à l'école. Et les amis du social étaient venus me trouver par rapport à cette opération qu'on devait lancer du haut de la chair. Mais vu déjà les défis qu'on a, vu les appels qu'on a déjà eu à faire tous ces jours-ci, ce n'était pas facile pour nous de faire cet appel pour les objets classiques. Mais du moins, le département s'est lui-même organisé avec leur caisse interne pour mettre à la disposition des enfants qui ont du mal à retourner à l'école quelques objets classiques. Et ces objets classiques seront distribués juste après la prière à l'Ecodim, disons à Phila School. Donc Phila School, deuxième année maternelle. Donc c'est là où il y aura lié la distribution. Et peut-être vous êtes là, vos enfants ne savent pas retourner à l'école. Vous pouvez également à ce moment-là descendre. Hein? Docteur Richard, on ne va pas distribuer à nous tous là. Hein? Donc par exemple, si Docteur Richard descend là-bas, je dis non, Docteur Richard, retourne à l'église. Hein? Donc si vous avez des enfants qui ont du mal à retourner à l'école, allez en deuxième année primaire maternelle A, les services de social sera là pour assurer la distribution. Et aussi avec les moniteurs et les monitrices de l'Ecodim, on a déjà identifié certains enfants. Mais ici à l'église, on n'a pas identifié les parents. Mais vous pouvez vous-même vous faire identifier pour recevoir quelques objets classiques. Nous sommes une famille, on est appelés à nous soutenir les uns les autres. Amen. Comme quelqu'un dit, « Esengoto, Esengote ». Est-ce que nous pouvons aussi honorer ces départements s'ils peuvent se mettre debout? Waouh! Waouh! Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il arrose vos familles, vos enfants et les enfants de vos enfants au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 17, 20 à 25 et 21, 48 à 51. Certainement, cela ne va pas vous déranger. Voilà pourquoi je vous invite à vous tenir debout pour qu'ensemble nous fassions la lecture de la Bible. 1 Samuel, je disais, chapitre 17, nous commençons à partir du verset 20 et jusqu'au verset 25 et nous allons encore sauter pour atterrir au 48e jusqu'au 51e verset. Lisons tous ensemble, 1, 2, 3. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Waouh, quel frère qui a le souci de ses frères aussi. Comment il se portait? Et tu peux dire à ton ami, à ton voisin de gauche, de droite, comment te portais-tu? Ça fait toujours du bien. Comment te portais-tu? Il demanda à ses frères comment il se portait. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs de Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 48. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre de Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front de Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David plus fort que le Philistin. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près de Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, lui tua et lui coupa la tête. Les Philistins voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Je déclare que vos ennemis prendront fuite au nom de Jésus. Je déclare que même les héros de tes ennemis prendront fuite au nom de Jésus. Ceux qui complotent contre toi, ceux qui font de mauvais complots contre toi, je déclare qu'ils ne resteront pas, ils prendront fuite. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et quelqu'un me dit amen en acclamant. Agir autrement, ce matin nous sommes avec la troisième séance depuis que nous avons commencé cette leçon qui a pris la lire d'une série d'enseignements. Agir autrement. Chaque fois que nous parlons d'agir autrement, notre grand souci c'est de nous pousser à changer la manière d'agir. Notre souci c'est de nous aider à adopter une nouvelle approche. C'est passer à l'action en adoptant une approche tout à fait différente. Vous savez, si vous faites toujours les mêmes choses de la même manière, vous aurez toujours les mêmes résultats. Alors si vous voulez avoir des résultats différents ou les résultats supérieurs à ceux que vous avez avant, il faut agir autrement. Agir autrement, c'est opérer à un degré plus élevé. C'est vouloir, coûte que coûte, se distinguer des autres dans sa façon d'opérer. Tu ne pourras jamais vivre la distinction si tu ne sais pas agir autrement. À l'école, tu ne pourras jamais avoir de bons résultats si tu ne sais pas étudier autrement. Agir autrement, c'est connaître de nouvelles percées avec Dieu. Et les passages que nous avons lus ensemble ce matin, c'est un passage que nous connaissons bien. Si vous avez la grâce de connaître Dieu depuis le bas âge, vous l'aurez déjà appris à l'écodime. L'histoire de David et de Goliath. Le fameux histoire de David et de Goliath. Là, il est relaté la victoire de David contre Goliath. Et cette victoire a plusieurs raisons, plutôt plusieurs leçons à nous enseigner. L'histoire de David et de Goliath. On a eu à enseigner. Moi-même, là, j'ai eu beaucoup à parler de cette histoire-là. Mais je bénis Dieu parce que ce matin, Dieu a ouvert autrement mes yeux pour voir les objets cachés, les secrets cachés de la victoire de David sur Goliath. Et c'est ces secrets que nous allons ensemble partager ce matin. Si tu es d'accord avec moi, tu me dis un vrai amen. Déjà, si nous lisons les premiers versets de ce chapitre, notamment nous commençons au début, prenons même les 4 versets, on est en train de nous présenter qui? De nous présenter Goliath. 1 Samuel 17, verset 4. La Bible dit que 1 un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre le désarmé. Alors, il faut déjà très bien retenir ces précisions. Quand Goliath sort du camp des Philistins, il va s'avancer entre le désarmé pour lancer son défi. Il n'était plus dans les camps des Syriens et il n'était pas non plus dans les camps des Israélites, mais il était entre le désarmé. En d'autres termes, il était dans les terrains neutres. Vous savez, ceux qui fréquentent Loufous, Emma, savent ce qu'on appelle le terrain neutre. Donc, dans ces terrains neutres-là, tu n'es pas en RDC, tu n'es pas non plus en Angola. Et Philistin et Goliath également étaient dans ces terrains neutres. Et il va lancer son défi. Et la Bible commence par donner une description de ces Goliath. Il dit, sur sa tête était un casque de reins. Et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles de reins. Vous avez tous ces détails. Pour bien les comprendre, il faut faire une conversion avec nos mesures actuelles. Parce qu'on dit 5 cycles d'argent, des reins, tout comme ça, c'est un peu compliqué. Mais ce que nous pouvons comprendre, c'est quoi par rapport à Goliath? Goliath, c'était un soldat philistin dont la taille mesurait plus ou moins 3 mètres. 3 mètres. Goliath était revêtu d'une cuirasse de bronze dont le poids était de 60 kilos. Vous voyez déjà. Dans sa main, il avait une lance en fer qui pesait environ 7 kilos. Et c'est ce tel soldat qui s'est pointé devant l'armée d'Israël. Et c'est ça ce qui faisait que dès que Goliath s'approchait, l'armée d'Israël prenait fuite. Terrifié. Il n'y avait pas combat à ce moment-là. Israël aurait reculé. À la vue de Goliath, dit la Bible, les Israélites reculaient. Non, pas reculaient. Ils prenaient fuite en reculant. Parce que chaque soldat cherchait à sauver sa vie. Non. On ne peut pas affronter un tel soldat dont la taille est de 3 mètres. Les armures qu'il porte, waouh, c'est incomparable. La solution à ce niveau-là, c'est la fuite. Et quand David a été envoyé par son père dans le champ pour voir comment ses frères se portaient, il leur avait certainement apporté de la nourriture. Après leur avoir remis la nourriture, la Bible dit, en ce même moment-là, Goliath aussi vient se présenter. Chaque fois que Goliath s'est présenté, les armées d'Israël plutôt fuyaient. Mais quand David est arrivé, la donne va changer. En lisant ces textes, nous allons comprendre qu'il y a deux différents types de regards sur Goliath. Deux différents types. Le premier type de regard, c'est le regard israélite. Ou les regards des soldats israélites. Israéliens dans le monde politique, israélites dans le monde religieux. Le regard israélite, la Bible dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc il ne fallait même pas que Goliath se mette à parler, juste seulement le fait de voir Goliath, c'est la peur qui est communiquée. Au talier Karabou, au bang, on s'est disqualifié. Et c'était ça, le premier regard. Un type de regard qui est basé sur la taille de Goliath. Quand il regardait Goliath depuis déjà sa tête là. Combien il avait le casque. Et Israël était déjà terrifié en regardant seulement Goliath. Pourquoi? Parce que leur regard était focalisé sur la taille, sur les armures que portait Goliath. Le deuxième type de regard, nous le trouvons avec ce jeune homme qui est venu apporter de la nourriture à ses frères. Lui, il va regarder autrement. David va regarder Goliath autrement. Au moment où les Israélites regardaient Goliath à la taille, David, en regardant Goliath, il s'est rendu compte d'une chose. Il n'a pas regardé Goliath par rapport à sa taille, mais il a regardé Goliath par rapport à la circoncision. Il a compris, cet homme n'est pas circoncis. En d'autres termes, si les autres soldats regardaient Goliath depuis la tête, le regard de David était focalisé vers la culotte de Goliath. Et David a compris que non, ce gars n'est pas circoncis. Quand on regarde la tête, on va avoir peur. On ne verra pas ce qui va faire le secret de David. David se focalise au milieu, sur sa culotte là. Il dit non. Moi je regarde autrement. Ce gars n'est pas circoncis. Et les différents regards vont produire également des genres d'attitudes. La première attitude, nous la trouvons chez les soldats israélites. Ils eurent peur. Ils eurent peur. Ils se disent, nous ne pouvons pas aller affronter ces soldats. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, Dieu nous empêche souvent de voir toutes choses. Sinon, nous pouvons commencer à avoir peur. Et cette peur-là va ouvrir la porte à l'ennemi. Et je parle à quelqu'un. Il y a des fois des choses qui se passent la nuit, des fois des choses qui se passent tout autour de nous. Dieu peut nous ouvrir les yeux pour le voir. Mais Dieu se pose maintenant la question, quelle serait notre attitude après avoir vu cela? Amen. Quelle sera notre attitude? Des fois quand tu marches là, tu ne sais pas combien le diable t'envoie de flèches. Et Dieu est en train de dévier toutes ces flèches là pour que ces flèches ne t'atteignent pas. Mais si tu vas ouvrir tes yeux pour voir ces flèches là, tu commenceras à avoir peur. Tu commenceras à avoir peur. Obandoki mapamba pamba. Tu dis non. Je vais t'épargner de toutes ces visions là. Pour que tu sois en paix. Puisque quand les soldats ou soit les serviteurs des prophètes Élisée avaient vu l'armée syrienne, avaient eu peur. Des fois, certaines choses que nous voyons peuvent nous effrayer, peuvent parfois détruire notre foi. Et c'est ça ce qui se passe avec le soldat israélite. À la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. À la vie de cet homme. Tous les soldats israélites ont pris fuite. Mais l'attitude de David, c'était une attitude différente. David, quand il a vu Goliath, au lieu d'avoir peur, écoute l'attitude de David. Il pose la question à ses frères. Que donnerait-on à celui qui va battre ces Philistins? Waouh! David voyait le trophée derrière la victoire qu'il aura sur Goliath. David, son regard, son attitude était déterminé par le butin. Attaché à la victoire. Qu'est-ce que j'aurai après avoir terrassé ces Goliath? Et avant de s'engager dans cette bataille, David pose la question, que donnerait-on à celui qui va battre ce Philistin? Rassuré en lui-même, il n'a pas cherché à savoir Goliath mesure combien de mètres? Son armure pèse combien de kilos? Non, il n'a pas pensé à tout ça. Il pense seulement au trophée. Que donnera-t-on à celui qui va battre ce Philistin? Vous savez, quand vous pensez au trophée, ça vous motive. Ça vous motive. C'est une motivation. On m'a relaté l'histoire d'une équipe de football lors des finales de Champions League. Dans cette équipe-là, il y avait un joueur qui a déjà remporté plusieurs fois le trophée de Champions League. Et ses coéquipiers n'ont jamais remporté cela. Lors de la première mi-temps, le score était vierge. Et pendant la mi-temps, la pause-là, il a fait appel à ses collègues. Il leur a dit ceci. Dès que vous me voyez là, j'ai déjà plusieurs trophées pareils. J'en ai déjà 3. Mais vous n'avez pas encore ça. Il nous reste 45 minutes. Si vous vous battez, si vous mouillez les maillots, vous aurez aussi ces trophées comme moi je l'ai. Focalisez-vous sur les trophées et ça va vous motiver. Moi j'en ai déjà. Ce n'est pas chaque saison où nous arrivons à la finale. Si vous ne vous battez pas, si vous ne savez pas mouiller les maillots, vous n'aurez pas ces trophées. Il a changé automatiquement l'attitude de ses coéquipiers. Et ils ont commencé à regarder au trophée. Non. Les trophées, nous devons l'avoir. Et c'est ça exactement l'attitude de David. Il voyait le butin, c'est qu'il va gagner après ce combat. Ça motive. Ça motive. Et cette réalité s'applique également dans toutes les situations de la vie humaine. Ne vois pas que les difficultés que tu vas traverser ou connaître, vois les trophées. Vous savez, toujours on a déploré cela. Combien ces gens mettent leur vie en danger en voulant traverser la mer Méditerranée pour se rendre de l'autre côté de l'Occident. Comment ces gens mettent-ils leur vie en danger? Comme on dit, Bakendara Poto Namakolo. La longue RDC, Koti Pointe Nord, Abalouki, Akebwe, Pan, Cameroun, Tango, Bimabwe, Pan, Mauritanie, Mbalamoko, pouf, Akomina Libye. Ah, je vais traverser la Méditerranée. Mais qu'est-ce qui motive ces gens? Ils ne voient pas la difficulté qu'ils vont connaître en cours de route. Ils voient l'Europe. On avait un grand frère de notre quartier qui a fini par se rendre en Europe comme ça. Il dit Nakenda Potomakolo. Ce qui le motive, il voit l'Europe. Et quand tu as de telles motivations, le découragement n'aura pas l'avantage sur toi. Quand David posait la question pour savoir qu'est-ce qu'on va donner à celui qui battra le Philistin, il y a des gens qui l'ont découragé. Dans ton parcours, il y aura toujours ces deux types de gens que tu vas rencontrer. Des personnes qui vont t'encourager et d'autres qui vont te décourager. Tu veux postuler, on veut te décourager. Ma candidat Bélé n'a pas mort. Bonsoir à deux. Et tu te laisses décourager. Pourquoi pas te dire na deux ou n'a pas aux alas. Ma partie politique est Bélé n'a pas mort. À ce jour, si je parle trop de ça, oui, c'est pour vous pousser. C'est pour vous pousser. Il y aura toujours les gens qui vont te décourager. Tu les rencontreras. Mais d'autres personnes vont t'encourager. L'un des biens que je retrouve chez Saoul, c'est quoi? Sur lequel plutôt? À un moment donné, David, découragé par ses frères, mais il était resté déterminé. Quand il va donner son expérience, faire part de son expérience à Saoul, Saoul lui dira, vas-y, que l'Éternel soit avec toi. Vas-y. Tu as un projet cette année, je te dis, vas-y, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. La richesse que tu as tant demandé à Dieu se trouve dans le projet que tu dois réaliser. Réalise ce projet. Bien sûr, il y aura des combats, des difficultés, mais ne te laisse pas emporter. Toi, vois le résultat, vois les trophées. Et tu finiras, je le déclare, par emporter les projets, les trophées. Tu finiras. Alors, la question que l'on peut se poser, qu'est-ce qui a poussé David à agir de la sorte? Ou qu'est-ce qui a poussé David à agir autrement? C'est quoi au juste? David, tes frères se découragent. Tes frères prennent fuite. Mais toi, tu avances. Qu'est-ce qui t'a poussé à avancer? Quel est le secret de cette attitude tant positive? Comme je l'ai dit, David regardait en regardant Goliath. Il regardait depuis sa culotte et il a compris que ses gars n'est pas circoncis. Le secret de la force de David, de la détermination de David, est lié à la circoncision. Et la circoncision, c'est le signe de l'alliance que Dieu avait traité avec son serviteur Abraham. Donc le secret de la victoire ou de la détermination de David, c'est l'alliance abrahamique. Et tu peux dire après moi, alliance abrahamique. Écoute ce que dit David. Qui est donc ce Philistin? Il dit non. pas seulement Philistin, s'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Qui est donc ce Philistin qui est un incirconcis? Qui est cet Philistin qui n'est pas en alliance avec Dieu? Qui est ce Philistin qui n'a pas connu la circoncision? Donc David voyait la dimension profonde qui est spirituelle. C'est de l'alliance. David a dit non, non, non. Pour remporter la victoire ici, je dois faire parler l'alliance. Il faut que l'alliance puisse crier. Puisque la circoncision en question, comme vous le voyez là, c'est le signe de l'alliance des dieux traité avec Abraham. Et en matière d'alliance, Dieu ne blague pas. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est un engagement que Dieu prend vis-à-vis des tierces. L'alliance de Dieu, c'est l'expression des engagements que Dieu a pris en notre faveur, des fois indépendamment de nous. Au travers de l'alliance, Dieu se laisse lier. En d'autres termes, Dieu est lié par son alliance. Et les clauses de l'alliance, vous devez savoir, sont basées sur la fidélité. Pour dire que ce que Dieu a pris comme engagement, il le fera. On va avancer. Dieu est le Dieu d'alliance. Or, en lisant l'ordonnance de la circoncision, rendons-nous dans Genèse chapitre 17, versets 11 à 14. Quand Dieu a ordonné la circoncision, il y a un secret qui est là. Et ce secret, il y a une clause qui est là. Et c'est cette clause qui va faire la différence. Que dit la Bible? Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Là, c'est Dieu qui parle à son peuple. Vous allez vous circoncire. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon les générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, écoute, un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé. Donc quand on est en Israël, quand on est dans les terrains des Israélites, et qu'on n'a pas été circoncis dans sa chair, la loi ordonne l'extermination. L'Éternel dit que cette personne doit être exterminée. Quelles sont les caractéristiques maintenant de l'alliance? Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Une alliance traité par Dieu est perpétuel. Une alliance que Dieu a traitée, cette alliance est perpétuelle. Ce sont là les caractéristiques, ou disons quelques caractéristiques de l'alliance. Quand Dieu traite une alliance, cette alliance part de père au fils. Comme l'alliance que Dieu avait traitée avec David. Dieu a dit à David, tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône. C'est une alliance éternelle. Tu ne manqueras pas. Voilà pourquoi tous les rois d'Israël devaient passer par la semence de David. Et même Jésus, qui est le roi des rois, en tant qu'Israélite, pour avoir cette royauté, devait avoir la semence de David. C'est ça la caractéristique de l'alliance. L'autre caractéristique de l'alliance, c'est quoi? C'est qu'une alliance est irrévocable. L'alliance, elle est irrévocable. Écoute ce que Dieu disait déjà en son serviteur Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Là, c'est Dieu qui parle. Tes descendants après toi. Donc l'alliance en question ne s'arrête pas qu'à Dieu et à Abraham, mais aussi aux descendants d'Abraham. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Vous savez, quand une personne est dans l'alliance, là, même si cette personne meurt, ses enfants bénéficieront de l'alliance. Ils bénéficieront de l'alliance. Ils vont bénéficier de cette alliance-là. Elle est
perpétuelle. Vous savez, Dieu avait traité cette alliance avec Abraham. Plusieurs années sont passées. À un moment donné, il s'est fait que les enfants d'Israël, les fils d'Abraham, la descendance ou la postérité d'Abraham étaient en esclavage en Égypte. Ils ont crié à l'Éternel. Exode chapitre 2, verset 24 et 25. La Bible dit que Dieu entendit leur gémissement. Et Dieu s'est souvenu de son alliance. En matière d'alliance, il y a un souvenir éternel. Dieu s'est souvenu de son alliance. De l'alliance qu'il avait traitée avec leur père Abraham, Isaac et Jacob. Puisque la même alliance a été renouvelée avec Abraham. Renforcée dans plus de plus avec Jacob. Dieu va se souvenir de cette alliance. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. C'est à cause de l'alliance. Les alliances crient plus fort. On m'a relaté l'histoire d'un prédicateur qui devait intervenir dans un pays quelque part. Et parmi les orateurs, il y avait aussi un blanc comme ça. Et le prédicateur qui devait intervenir là a passé toute sa journée à gêner, à prier, à chercher la face de Dieu pour que Dieu se manifeste. Et à côté de lui, il y avait un autre orateur qui passait tout son temps à jouer, à nager, à faire de n'importe quoi. Et quand le service a commencé, le premier prédicateur là qui avait prié, gêné, a pris le micro pour opérer. Il a fait ce qu'il pouvait faire et il a terminé. Mais le deuxième là, quand il a pris le micro, excusez-moi, celui qui n'avait même pas prié, celui qui n'avait même pas gêné, mais quand il a pris le micro, les miracles ont commencé en cascade. L'autre prédicateur en voyant cela m'a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est car je vais te dire comment il a passé sa journée. Il a passé sa journée à jouer, à nager, à regarder la télé. Mais moi, j'ai gêné, j'ai prié. Mais comment tu l'as utilisé plus que moi? J'ai dit, c'est une affaire d'alliance. Est-ce que tu connais les ancêtres de cet homme-là? J'ai à traiter des alliances avec leurs ancêtres. Son père, son arrière-père, ancêtre, les aïeux. J'ai à traiter une alliance avec eux. Et il travaille sous l'alliance de ses pères. Ces prédicateurs africains se rendaient compte que non, ce n'est pas le cas avec moi. Alors que les ancêtres de l'autre prédicateur, depuis les temps anciens, passaient des temps à parler en langue. Le nôtre passait des temps dans la sorcellerie, dans n'importe quoi. On ne nageait pas dans la même dimension de l'alliance. L'alliance écrit plus fort que même les simples promesses. L'alliance écrit plus fort. La Bible dit, Dieu a entendu les gémissements. Dieu s'est souvenu. Quand Dieu se souvient de son alliance, il passe à l'action. L'alliance est irrévocable. L'alliance, elle est irrévocable. Et David va s'appuyer sur l'alliance. Il va se rendre compte que non, Goliath est un incirconcis. Il n'est pas sous alliance. Et moi, je suis dans une alliance avec Dieu. Vous savez, l'alliance est tellement forte. Plus que la promesse. Dieu avait juré à David qu'il ne manquera jamais de successeur sur son trône. Même après David, un roi viendra, Salomon. Que va-t-il faire? Je suis dans 1 Roi chapitre 11, verset 11. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, vous savez, Salomon était polygame, il était impudique à tout moment, donc c'était bizarre avec lui. Et Dieu en avait marre avec cet homme. Dieu a dit, non, je vais en finir avec Salomon. Dieu dit, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. C'est la décision que Dieu prend. Mais après avoir pris cette décision, écoute ce que Dieu dit. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David. Parce que Dieu avait traité une alliance avec David. Je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Et il ajoute encore, je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David. En d'autres termes, à cause de l'alliance que j'ai traitée avec David. À cause de l'alliance que j'ai traitée avec David. À un certain niveau, même quand il y a le péché, laissez-moi vous dire, l'alliance crie plus fort que le péché. Dieu dit, à cause de l'alliance, l'alliance est irrévocable. L'alliance est irrévocable. Et David, en face de Goliath, il va faire parler l'alliance qui va au-delà d'une simple promesse. Dans son alliance, Dieu se trouve lié par sa parole. Dieu se trouve lié à ses engagements. Il est un Dieu d'alliance. Et en faisant parler l'alliance, Goliath va commettre des erreurs. Goliath sera poussé à commettre des erreurs. C'est ça le secret de David. Il dit, ici je vais présenter l'alliance. Et en présentant l'alliance, Goliath va tomber dans l'erreur. Allons-y avec la première erreur. C'est l'erreur de mobilité. Est-ce que tu peux répéter après moi la mobilité? Ou le faux mouvement? Qu'est-ce qui se passe-t-il? La deuxième alliance, c'est l'alliance, c'est l'erreur de langage ou auto-malédiction. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec l'erreur de la mobilité? La Bible dit, tandis que David parlait avec ses frères, le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées. La Bible précise, c'était hors des rangs des Philistins. Qu'est-ce qui se passe? Pour lancer les défis, Goliath a quitté les camps philistins et il avance entre les deux armées. Goliath était là. Imaginons que là derrière, c'est le camp des Philistins. Et devant moi, c'est le camp des Israélites. Et Goliath se met à la zone neutre, au terrain neutre. Il commence à libérer le défi. Qui va se battre avec moi? Et c'est ce qu'il faisait chaque jour. Or, David avait déjà compris une chose. David a compris que non, cet homme, il n'est pas en alliance avec Dieu. Pour que j'arrive à voir cet homme, il faut qu'il entre dans notre terrain. Et comme la loi de mon Dieu dit ceci, qu'un mâle en Israël sera exterminé, c'est à ce moment-là que je vais la voir. Et je me fais comprendre. Ok. Alors, David va maintenant commencer à s'opposer à Goliath. Que va-t-il se passer? La Bible dit, avant la confrontation, aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, que se passe-t-il? Goliath était déjà dans le terrain neutre, entre deux armées. Et quand David va se pointer dans leur armée, il va créer la confrontation. D'abord, une confrontation verbale. Et qu'est-ce qu'il va maintenant faire Goliath? Goliath a trouvé que non, il y a un petit là qui se moque de moi. Je vais aller là où il se trouve. Et la Bible dit, aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de Goliath. Or, pour marcher au devant de David. Or, en marchant au devant de David, Goliath n'était plus dans les terrains neutres. Goliath était entré dans les camps des Israélites. Or, c'est que Goliath oubliait qu'il n'était pas circoncis. Or, quand un incirconcis entre dans les terrains des circoncis, son arrêt de mort est signé. C'est ça la première erreur de Goliath. Goliath, en d'autres termes, il avait franchi la ligne rouge. En franchissant la ligne rouge. Donc, en vrai dire, ce qui a tué Goliath, ce n'était pas la pierre de David. Ce qui a tué Goliath, c'était la loi. Ce que disait la loi. Qu'une telle personne sera exterminée. Écoute ce que dit Genèse chapitre 17, verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Donc David a poussé Goliath à commettre une erreur qui lui sera fatale. En d'autres termes, laissez-moi te dire, chaque fois que l'ennemi s'approche pour s'attaquer à toi, il commet une erreur. Quand tu es en alliance avec Dieu, si tu sais faire parler l'alliance, même tes ennemis, quand ils voudront t'attaquer en entrant dans la zone interdite, ils vont commettre une erreur. Et c'est cette erreur-là qui leur sera fatale plutôt. Donc c'est lui-même Goliath qui avait signé son arrêt de mort. Oh, j'ai prié que tes ennemis commettent l'erreur de traverser la zone rouge. Et quand ils vont traverser la zone rouge, ils vont signer leur arrêt de mort. Et voilà même pourquoi je déclare à tous tes adversaires qui ont déjà franchi la ligne rouge, je fais parler l'alliance ce matin. En disant que puisqu'ils ont franchi la ligne rouge, ils le seront exterminés. La Bible dit ceci, ne touchez pas à mes oies, ne faites pas de mal à mes prophètes. Ce sont là les clauses de l'alliance. Ce n'est pas pour rien. Quand David avait l'occasion d'en finir avec Saoul, David avait refusé. Les soldats de David ont dit à David, voici l'Éternel a livré aujourd'hui entre tes mains ton ennemi. Écoute la réponse de David. Je ne porterai pas ma main contre un oint de l'Éternel. David savait cela. En d'autres termes, David voulait dire, je ne vais pas commettre l'erreur qu'avait commis Goliath en portant la main. Voilà pourquoi je vais dire à une personne, quand tu t'attaques à un oint de Dieu qui est en alliance avec l'Éternel, tu signes ton arrêt de mort. Il y a certaines personnes dans la vie, il ne faut pas s'attaquer à elles. Ou en d'autres termes, si tu veux t'attaquer à ce genre de personnes, le premier conseil que je te demanderais, c'est de te réserver déjà une place au cimetière et de t'acheter déjà un cercueil, parce que c'est ton arrêt de mort qui est signé. Oh, tout celui qui s'attaque à toi, je déclare déjà qu'il puisse avoir son cercueil parce qu'il sera enterré. Je le déclare in the mighty name of Jesus Christ. David a dit, Goliath, je vais te laisser entrer dans la zone interdite. Je vais te laisser commettre une erreur. Chaque fois que le diable te combat, il commet l'erreur. Il commet l'erreur. David a refusé de combattre Saoul. Il a refusé de porter sa main sur Saoul. Il dit, non, je ne ferai pas. Je ne le ferai pas. Cet homme, il est le roi d'Israël. Il est en alliance avec Dieu. Si je porte ma main, Dieu va s'occuper de moi. Dieu va s'occuper de moi. Il y a des personnes dans la vie, bien-aimée, il ne faut jamais vous attaquer à elles, surtout quand vous savez qu'elles sont en alliance avec Dieu. J'avais en parlant de ces choses, Dieu me fait penser à des personnes qui ne sont plus. Parce qu'ils s'étaient attaqués à nous. Peut-être vous connaissez l'une d'elles. La deuxième, Maman Rebecca la connaît. Parce qu'ils s'étaient attaqués à nous. Et vous savez, Papa Bileko, quand j'ai vu des personnes mourir parce qu'ils s'étaient attaqués à nous, même moi là, ça m'a fait peur. C'est que tout ça a pété en Zambie. Une personne qui s'attaque à toi et Dieu s'occupe d'elle. Moutoisa en alliance, pas pour nous s'inquiéter. Moutoisa en alliance, pas pour nous s'inquiéter. Quand tu t'attaques à lui, son Dieu va s'occuper de toi. Voilà pourquoi il ne faut pas souvent entrer dans des combats dont tu ne connais ni la tête ni la queue. Des fois, il ne faut pas chercher à entrer dans des combats où le butin n'est pas en jeu. David a dit, Daniel, Goliath, je sais comment t'avoir. Quitte les terrains nets. Tant que tu es dans les terrains nets, tu n'as pas violé l'alliance. Tant que tu es dans les terrains nets. Vous savez, en matière de la circoncision, il y a une chose qui m'a effrayé dans la Bible. À un moment donné, Moïse lui-même, il avait un fils qui n'était pas circoncis. Et la Bible déclare que Dieu voulait les tuer. Vous comprenez un peu? Dieu voulait tuer Moïse à cause de cela. Parce que son enfant n'était pas circoncis. Son enfant avait déjà dépassé l'âge de 8 ans. L'enfant de Moïse, s'il vous plaît, donne-moi une minute encore. L'enfant de Moïse n'était pas circoncis. Oui. Dieu voulait tuer Moïse. Et quand Dieu voulait tuer Moïse, la Bible déclare que Séphora va se précipiter pour circoncire l'enfant. Et en ce moment-là, Moïse a été sauvé. En matière d'alliance, Dieu ne blague pas. Dieu ne blague pas. Dieu ne blague pas. Moïse a eu la vie sauve. Quand sa femme Séphora a compris que non, je dois circoncire l'enfant. Un mâle qui n'est pas circoncis, il sera exterminé. Et la deuxième erreur avec laquelle je termine, c'est l'erreur de l'auto-malédiction. Répétez après moi, l'auto-malédiction. David, ici, il fait parler l'alliance. Que dit l'alliance? L'une des clauses de l'alliance, nous la trouvons dans Genèse chapitre 12. Dieu avait dit ceci. Moïse, plutôt Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Oh, remets les passages. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est ça l'une des clauses de l'alliance que Dieu a traité avec David. Et quand vous lisez maintenant, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui bénit David ou qui bénit la postérité d'Abraham, automatiquement, il s'est béni. Ou en d'autres termes, une personne qui maudit la postérité d'Abraham, automatiquement, il s'est maudit. Et que dit maintenant à propos des Philistins Goliath? La Bible dit ceci. Dans quel passage là nous sommes? Toujours dans 1 Samuel 17, verset 42. Les Philistins regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Les Philistins dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et la Bible dit, après l'avoir maudit. Donc, après l'avoir maudit, oui, c'est pas ça. Après l'avoir maudit par ses dieux au pluriel. Donc, Goliath a pris sérieusement le temps de maudire David par le nom de tous ses dieux au pluriel. Or, c'est que Goliath ne savait pas. Tu maudis celui qui est en alliance avec Dieu. Et l'une des clauses de cette alliance dit ceci, celui qui te maudira sera maudit. Du fait que Goliath avait maudit David, Goliath était en train de se maudire. Or, en se maudisant, Goliath signait aussi son arrêt de mort. Voilà pourquoi je te dis, quand tu es en alliance avec Dieu, quand une personne te maudit, tu n'as pas aussi besoin de le maudire. Lui-même est en train de s'auto-maudire. Pourquoi? Parce que toi, tu es en alliance avec Dieu. Et quand tu identifies une personne qui est en alliance avec Dieu, laisse-moi te dire, c'est une personne que tu dois bénir. Plus tu bénis celui qui est en alliance avec Dieu, plus ta bénédiction sera aussi ton partage. Quand tu identifies, je le répète, une personne étant en alliance avec Dieu, prends soin de le bénir parce qu'en le bénissant, tu participes aussi à la bénédiction. L'erreur de Goliath, c'était de maudire Dieu par tous ses dieux, de maudire David par tous ses dieux. Et c'était déjà son arrêt de mort. Il a maudit David par tous ses dieux. En maudissant David, il était en train de se maudire. Il y a une race de personnes qu'on ne maudit jamais. Il y a une race de personnes qu'on ne combat jamais. Il y a une race de nations qu'on ne combat jamais comme Israël. Et ce sont là les erreurs de Goliath. Comme son arrêt de mort était déjà signé, raison pour laquelle une simple pierre aller s'occuper de lui. Et souvent, quand il est question d'exterminer une personne en Israël, vous savez la méthode utilisée? La lapidation. Et David avait compris ça. Il dit, une telle personne mérite d'être lapidée. Voilà pourquoi il n'était pas allé chercher une flèche. David était allé chercher une pierre. Il dit, je dois les lapider. David agissait conformément à ce que la loi disait. Il agissait conformément. Il sait que c'est la lapidation. La femme à la perte de sang, la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, la loi de Moïse disait qu'une telle femme soit lapidée. Donc, le mode opératoire d'exécution en Israël, c'était la lapidation. Étienne a été lapidé. Paul, à plusieurs reprises, a été lapidé. Mais Dieu l'a sauvé. Et David a compris que non, cet homme, moi, je vais agir selon la loi. Il faut qu'il soit lapidé. Voilà pourquoi il n'est pas allé chercher une flèche. David est allé chercher une lance. Et avec la lance, il va lapider Goliath. Une pierre avait suffi. Et Goliath était mort. Voilà pourquoi il est important de connaître la loi de l'Éternel. Oui, la force de la loi de l'Éternel. Ou disons la connaissance de la loi de l'Éternel. C'est ça ce qui a fait la force de David. Écoute ce que le psaume, oui, le psaume 37, verset 31 dit. Il dit, la loi de son Dieu est dans son cœur. David connaissait la loi. La loi de son Dieu est dans son cœur. Et ses pas ne chancèlent point. Tellement qu'il connaissait la loi, David ne pouvait pas chanceler. Parce qu'il connaissait la loi. L'erreur de Goliath, c'était d'ignorer la loi. Il a franchi la ligne rouge. Laissez tes ennemis franchir la ligne rouge. Vous savez, des fois, quand les gens se moquent de toi, quand les gens t'injurient, quand les gens disent n'importe quoi contre toi, laissez-les. Au fur et à mesure qu'ils le font, ils vont franchir la ligne rouge. Et dès qu'ils vont franchir la ligne rouge, ce n'est pas toi qui vas t'occuper d'eux, c'est l'Éternel lui-même qui s'occupera d'eux. L'une des manières d'aider ton ennemi à être exterminé, c'est de le laisser continuer à se moquer de toi. Plus il le fait, il finira par traverser la ligne qu'on ne traverse pas. Et écoute ce que dit l'autre passage là. Psaume chapitre 118, verset 85. Nous terminons par là, l'adoration peut déjà monter. La Bible dit ceci: des orgueilleux créent des forces, des fausses devant moi. Ils n'agissent pas selon ta loi. Des orgueilleux créent des forces devant moi. Ils n'agissent pas selon la loi. Or, que dit la loi? Écoute ce que la loi dit. La loi dit ceci, ce passage, je l'avais dit. La Bible dit que celui qui crée une fosse, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même va tomber dedans. Qui crée une fosse, il tombera. Quand l'ennemi te crée une fosse là, en d'autres termes, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Demandez à Ama, il vous donnera les témoignages. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ama? Je suis dans le livre d'Esther où on nous parle du récit d'Ama. Qu'est-ce qui s'était passé? Le même bois que Ama avait préparé pour pendre Mardoché, ce même doigt a servi à la pendaison de Ama. Je ne sais pas le nombre d'ennemis que tu as, mais laissez-moi te dire, laissez-les traverser la ligne rouge. Dieu s'occupera d'eux. Oh, j'aime encore ce cantique. Nakobange Lokote. David a dit, moi je vais agir autrement. Je vais agir autrement. Je vais les provoquer pour qu'ils traversent la ligne rouge. Et quand il va traverser la ligne rouge, je l'aurai. Nakobange Lokote. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Alléluia.